Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Lionel Bénarousse, maire des Lilas. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous allons parler de la réforme des retraites après cette cinquième journée de mobilisation contre un texte discuté à l'Assemblée nationale. Comment expliquez-vous le fait que cette réforme suscite un tel rejet et que le gouvernement ne réussisse pas finalement à convaincre les Français de la nécessité de reculer l'âge de départ à la retraite ?
Je crois que globalement, le rejet est tel et il est tellement massif que ça signifie rien d'autre que le fait que cette réforme n'est pas bonne. Cette réforme n'est pas bonne parce qu'elle n'est pas comprise et elle n'est pas comprise parce qu'elle n'est pas juste et qu'elle n'est pas justifiée. Donc une réforme injuste et injustifiée a peu de chances de convaincre et elle ne peut que susciter une forte désapprobation, si c'est le cas.
Qui a le plus à perdre si cette réforme des retraites était adoptée ?
Alors, l'ensemble des actifs a à perdre, puisque ça signifie 2 ans de travail en plus. Alors j'entends l'argumentation selon laquelle il va bien falloir travailler plus longtemps puisque l'espérance de vie progresse. Je crois que là, déjà, il y a une contre-vérité qu'il faut démentir. D'abord, l'espérance de vie, malheureusement, ne progresse plus depuis quelques années en France. Et surtout, l'espérance de vie en bonne santé, elle, ne progresse plus du tout, voire même régresse. Et donc, tout le monde a à y perdre. Après, on voit bien que les principales victimes de cette réforme, c'est celles et ceux qui sont déjà les plus fragiles. Je pense notamment aux femmes qui ont souvent eu des carrières interrompues pour différentes raisons, la maternité ou d'autres raisons. Je pense à celles et ceux qui exercent les métiers les plus pénibles, puisque la pénibilité n'est pas prise en compte dans cette réforme et qui vont devoir travailler davantage alors qu'ils ont des conditions de travail extrêmement dures. Donc sont vraiment les gens les plus fragiles et les plus précaires qui seront les plus touchés par cette réforme.
Les députés ont supprimé l'article 2 de la réforme des retraites qui prévoyait un index sur les salariés seniors. Le gouvernement entend réintroduire ce dispositif lors du passage de la loi au Sénat. Est-ce qu'il faudrait des mesures plus incitatives pour maintenir les salariés les plus âgés dans leur emploi ?
Oui, sans doute, mais les députés qui ont voté contre cet index senior n'exprimaient pas un refus de travailler et d'agir pour l'emploi des seniors. Je pense que là-dessus, le désaccord ne se porte pas là-dessus. C'était simplement une manière d'exprimer le fait que plus globalement, le gouvernement doit entendre à la fois la protestation au sein de l'hémicycle, mais globalement de la population. On est face à un mouvement social qui est massif, qui est rare, qui est extrêmement digne et extrêmement bien organisé, extrêmement pacifique, et qu'on ne peut pas, dans une démocratie, faire fi d'un mouvement social aussi puissant que celui-là. Je pense que c'est ça que signifiait ce vote, une manière de dire au gouvernement, attention, l'opposition est forte, l'opposition est résolue face à ce projet, il faut l'entendre et on ne peut pas passer en force.
Après la journée de mobilisation de ce jeudi, les syndicats annoncent un mouvement plus dur le 7 mars, peut-être une grève reconductible, notamment chez les éboueurs. Qu'est-ce qui peut convaincre Emmanuel Macron de renoncer à son projet ?
Ah ça, moi je ne suis pas à la place d'Emmanuel Macron, donc j'aurais beaucoup de mal à vous dire ce qui peut le convaincre d'une manière ou d'une autre. Je pense que ce qui devrait le convaincre en tout cas, c'est la réaction massive de rejet de ce projet au sein de la population française. Bien sûr, le mouvement social en est un des révélateurs, mais les enquêtes d'opinion s'enchaînent qui toutes montrent que massivement et de plus en plus massivement, les Français rejettent cette réforme et que ça devrait susciter chez le président de la République ou la Première ministre ou son gouvernement, une réflexion autour de l'idée que si ce rejet est aussi massif et aussi durable et s'installe dans le temps, c'est bien qu'il signifie quelque chose et que la moindre des choses serait de retirer ce projet de réforme et de remettre ce projet à la négociation avec les partenaires sociaux.
Lionel Bénarousse, cette réforme des retraites, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase au moment où l'inflation touche tous les produits du quotidien ?
Sans doute, je dirais que c'est la double goutte d'eau qui fait déborder le vase. D'abord parce que ça n'est pas la première réforme des retraites et que régulièrement, tous les 3, 4, 5 ans, on évoque une nouvelle réforme des retraites. Et ces réformes des retraites, celles qui ont déjà eu lieu, celles qui ont déjà été avalisées, elles vont toutes dans la même direction. Elles proposent que l'effort ne porte que sur quelques-uns, sur celles et ceux qui travaillent. Jamais on envisage de solliciter pour financer ce système système de retraite par répartition, d'autres types de revenus et d'autres types de ressources qu'il est possible de mobiliser. Je pense aux revenus patronaux, je pense aux revenus générés par le capital, et que c'est d'autant plus incompréhensible alors qu'aujourd'hui Airbus annonce des profits records et qu'il y a quelques semaines c'était Total qui annonçait 19 milliards de profits qui n'avait jamais atteint. Et puis effectivement c'est une goutte d'eau par rapport au contexte social qui est très dur. On voit bien que l'inflation frappe lourdement l'ensemble des ménages, en particulier les catégories populaires, et que ajouter cette réforme-là dans ce contexte-là peut être vécu comme une espèce d'incompréhension par rapport à la réalité de ce que vivent l'essentiel des habitants, en tout cas ceux que je croise moi au Lila, quoi.
Alors vous dirigez Les Lilas, une ville qui touche Paris, qui est située en Seine-Saint-Denis. De quelle manière votre commune soutient-elle les personnes confrontées notamment à la précarité alimentaire ?
Alors, globalement, les communes agissent, c'est le cas au Lila, peut-être plus qu'ailleurs, mais je crois que l'ensemble des maires que je connais agissent comme une espèce d'airbag un peu social que nous essayons de mettre en place pour soutenir celles et ceux qui sont les plus dans la difficulté. Ça peut prendre de très nombreuses formes. Pour n'en citer que quelques-unes au Lila, on a sensiblement augmenté le budget consacré à ce qui s'appelle le CCAS, qui est le Centre communale d'action sociale, qui a notamment comme mission de venir en aide aux plus modestes, aux plus fragiles, aux plus précarisés. Nous avons fait, il y a 2 ans maintenant, une réforme du quotient familial qui permet par exemple aux familles les plus modestes d'avoir accès pour leurs enfants gratuitement à la cantine scolaire, ce qui permet qu'au moins dans ces familles-là, les enfants puissent bénéficier d'un repas de qualité et équilibré, au moins un dans la journée, les jours d'école. Et nous avons multiplié les mesures de ce type qui permettent d'apporter tout le soutien que l'on peut à celles et ceux qui sont les plus durement frappés par la crise économique et sociale à laquelle nous sommes confrontés.
Vous le voyez sur le terrain, lorsque vous rencontrez des habitants des Lilas, vous voyez cette précarité augmenter ?
Oui, mais je me rends compte en tant que maire et en tant qu'habitant moi-même. Enfin, qui ne se rend pas compte en allant faire ses courses on fait de plus en plus attention à ce que l'on met dans le caddie du supermarché, parce qu'on voit bien que les prix ont très fortement augmenté, et on nous annonce que le mois de mars sera pire que les mois que nous avons connus précédemment sur les prix des produits alimentaires. Qui ne discute pas avec son voisin, sa voisine, qui lui dit l'inquiétude par rapport aux factures d'électricité, de gaz, de chauffage, d'énergie qui occupe des sommes absolument considérables, qui ne discute pas avec des gens qui se privent de telle ou telle dépense jusque-là habituelle pour pouvoir financer des dépenses supplémentaires liées à des comportements de consommation de première nécessité. Oui, je crois que, pas seulement en tant que maire, alors sans doute en tant que maire plus encore parce que je suis en contact avec de très nombreux habitants de la ville, mais je crois que chacun d'entre nous peut constater dans sa vie quotidienne à quel point la vie est devenue dure, encore plus dure depuis quelques mois, et que la situation ne s'améliore pas.
Lionel Bénarous, comment votre ville a-t-elle réagi à la hausse des tarifs de l'énergie ?
Alors, notre ville, en tant que ville, a réagi tout simplement en anticipant une augmentation très forte des dépenses liées à ce poste. Dans la construction du budget que nous allons voter d'ici un mois au Lila, nos prévisions budgétaires nous laissent à penser que c'est 1 million d'euros supplémentaires que nous devrons dépenser pour faire face à l'augmentation très forte des prix de l'énergie. Alors bien sûr, on a pris toute une série de mesures déjà depuis plusieurs années qui s'imposaient pour réduire ce surcoût. Nous multiplions et nous avons multiplié les chantiers de réhabilitation de nos bâtiments communaux pour les rendre moins énergivores et plus vertueux en matière de consommation énergétique. Nous avons mis en place un plan de sobriété énergétique pour réduire autant que possible notre consommation. Nous sommes porteurs, mais c'est sur un temps de moyen terme depuis plusieurs années déjà, avec deux villes voisines, Pantin et Le Pré-Saint-Gervais, d'un projet qui va se traduire par la construction sur le territoire de la ville des Lilas d'une centrale géothermique qui permettra de fournir une chaleur moins onéreuse et qui raccordera de très nombreux logements mais aussi les bâtiments communaux. On a pris toutes les mesures possibles, mais malgré cela, l'augmentation est tellement forte et tellement brutale que l'impact sur le budget de la ville sera extrêmement important.
Le ministre du Logement, Olivier Klein, est issu de la Seine-Saint-Denis. Comme vous, qu'attendez-vous de lui sur la construction de logements, notamment en Seine-Saint-Denis ?
Alors, la situation des Lilas est une ville un peu particulière. La ville des Lilas est une petite commune qui est presque totalement construite et connaît des densités extrêmement fortes. Donc, je ne sais pas si c'est aux Lilas que les choses se feront, mais ce qui est certain, c'est que nous avons besoin de retrouver une politique relativement forte, relativement incitative, relativement, enfin, bien davantage volontariste sur la construction de logements sociaux. Quand on discute avec les gens, bien sûr, la question du pouvoir d'achat et de l'inflation est une question qui revient très souvent. Bien sûr, la question des retraites est au cœur de l'actualité, mais quand on est élu, on sait que la première préoccupation en première couronne parisienne et sans doute au-delà de nos concitoyens, c'est celle de la capacité à se loger correctement. Moi, je suis dans une ville où, pour 23 000 habitants, il y a plusieurs milliers de demandes de logements sociaux en attente, qu'évidemment je ne réussis pas à satisfaire dans leur intégralité. Et donc, il y a besoin de relancer la construction de logements sociaux, et puis il y a besoin d'une loi qui, davantage encore peut-être que ce qui existe aujourd'hui, puisse contraindre les élus des villes dans lesquelles le logement social est trop peu présent, eh bien, de contribuer à cet effort collectif.
Lionel Bénarousse, les Franciliens ont subi une augmentation du prix du Pass Navigo. Comment réagissez-vous à cette hausse et que faire aussi pour avoir des transports qui fonctionnent normalement ?
Les Franciliens n'ont pas subi que ça. Ils ont subi en même temps une augmentation effectivement du Pass Navigo décidée par le Conseil régional d'Île-de-France et en même temps une dégradation brutale, très visible, de la qualité de service. La ville des Lilas est concernée par plusieurs lignes de bus et on voit bien que la fréquence entre les bus n'a cessé d'augmenter depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. La ligne 11, là aussi, la fréquence entre les métros ne cesse d'augmenter. Et donc il y a eu en même temps, ce qui génère une incompréhension totale, un renchérissement du coût du transport en commun pour l'usager et une qualité de service qui est devenue bien moins importante. Alors j'entends la nécessité de recruter, les difficultés qui sont mises en avant, difficultés de recrutement de chauffeurs de bus, etc., etc. Moi, il se trouve que j'ai un dépôt de bus sur le territoire de la ville des Lilas, qui a eu des grèves et que j'ai été rendre visite à ces salariés de la RATP qui étaient en grève. Tous me disaient la même chose. S'il y a du mal à recruter des chauffeurs de bus aujourd'hui, ben, c'est parce que globalement, le métier a évolué de telle manière qu'il est devenu de moins en moins attractif, de plus en plus difficile, de moins en moins bien rémunéré, et qu'on n'arrive plus à attirer des salariés qui viendraient s'engager dans ce métier-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la voie qui est prise aujourd'hui, en tout cas qui a été prise par le Conseil régional d'Île-de-France, j'espère qu'on reviendra sur cette orientation-là, d'aller vers une privatisation d'un certain nombre de lignes de transport n'est pas la bonne, parce que ça ne fait qu'aggraver les problèmes, en aucun cas les solutionner. Il faut des investissements publics massifs dans les transports en commun. On sait qu'on a là une des clés, un des leviers puissants sur lesquels on peut agir pour favoriser la transition écologique de nos villes, eh bien, il faut que l'État s'engage pour financer des équipements de transport en commun qui soient à la hauteur de cette exigence de transition écologique.
Lionel Bénarousse, votre ville est directement concernée par les travaux du Grand Paris qui visent à offrir des transports en commun plus importants. Où en sont les travaux de prolongation de la ligne 11 qui passe, vous l'avez dit, par les Lilas ?
Oui, ils sont en train de se terminer. C'est un chantier qui a été, pour la ville des Lilas, long et douloureux, puisque nous étions doublement concernés par la rénovation complète de la station mairie des Lilas, qui est encore aujourd'hui le terminus de la ligne actuelle, et donc située en plein centre-ville. Et il y a eu des travaux encore aujourd'hui importants pour assurer la rénovation de cette station, et puis la création d'une station nouvelle, puisqu'il y a une station au cœur du quartier des Centres, qui s'appellera la station Les Lilas Serge Gainsbourg, et que la particularité, c'est que le chantier était particulièrement complexe à mener pour créer cette station-là, puisqu'elle se fait au milieu d'un environnement très densément bâti, et donc les nuisances ont été très lourdement ressenties par les habitants. Aujourd'hui, la RATP nous annonce que la mise en circulation de la ligne devrait avoir lieu dans les premiers mois de l'année 2024. Donc, a priori, on est dans la dernière année d'un chantier qui aura duré 6 à 7 ans.
J'aimerais évoquer aussi avec vous, Lionel Bénarousse, la question des déserts médicaux. Vous êtes dans une ville proche de Paris. On imagine qu'il y a suffisamment de médecins généralistes. Vous allez nous dire si c'est le cas. Mais il y a aussi une maternité qui est assez célèbre et dont on s'est demandé si elle allait subsister sur le territoire de votre ville.
Alors, concernant la médecine de ville et la médecine générale, peut-être moins qu'ailleurs, mais la ville de Lille est confrontée au vieillissement de la population de médecins généralistes qui, pour certains d'entre eux, prennent leur retraite, et la difficulté de trouver de jeunes collègues qui viennent reprendre leur activité. Ça, on sait que c'est un problème qui dépasse largement, évidemment, les frontières des Lillas et de l'Île-de-France. Peut-être que l'attractivité des Lillas permet que la question soit moins aiguë aux Lillas qu'elle ne l'est ailleurs, mais il m'a fallu, par exemple, renforcer les moyens accordés au centre municipal de santé des Lillas pour permettre d'offrir davantage, et des travaux sont d'ailleurs prévus pas plus tard que cet été, pour permettre d'accueillir davantage de consultations de médecine générale pour pallier à un nombre de médecins généralistes de ville moins nombreux qu'il ne l'a été il y a quelques années. Concernant la maternité des Lillas, c'est une histoire qui commence à remonter maintenant à plusieurs années, je dirais presque décennies. Depuis longtemps, nous savons désormais que les locaux de la maternité ne sont plus adaptés. C'est un établissement de santé emblématique notamment pour le droit des femmes. C'était une des premières maternités qui a privilégié l'accouchement physiologique sur d'autres formes d'accouchement pour les femmes qui le souhaitaient et qui le pouvaient, qui a été pionnière dans le combat pour le droit des femmes à disposer de leur corps et notamment pour l'avortement. C'est encore récemment une maternité qui, je crois, a été la première à procéder à l'accouchement d'une personne transgenre. Donc c'est une maternité militante, une maternité qui porte un projet médical tout à fait particulier. Les locaux ne sont plus adaptés, ils sont vétustes, ils ont besoin d'évoluer vers des locaux plus spacieux et plus modernes. Nous en convenons, mais nous avons le souci de préserver le projet médical de cette maternité. C'est ce que nous faisons valoir depuis des années maintenant auprès de l'Agence régionale de santé, en relais des préoccupations des équipes médicales et des usagers et des usagères de la maternité, et nous poursuivons les discussions pour arriver à ce résultat.
Lionel Benarous, vous êtes maire des Lillas, membre du Parti Socialiste, mais vous dirigez une majorité de gauche dans cette ville. Quel regard portez-vous sur la NUPES à l'Assemblée nationale ?
Oui, alors la tradition de la ville des Lillas, c'est d'être une ville qui, depuis 2001, est dirigée par une majorité de gauche unie, même quand la gauche se divisait dans le pays. Au Lillas, on a toujours réussi à maintenir entre les socialistes, les communistes, les écologistes, et puis ces citoyens de gauche qui ne sont pas engagés dans tel ou tel parti, mais qui ont envie de s'investir pour l'avenir de leur ville, de maintenir cette unité. Sur la NUPES à l'Assemblée nationale, je ne sais pas ce que je peux en dire, simplement que je pense qu'on a toujours intérêt à éviter les outrances et les provocations pour être dans le cœur du débat et faire entendre une voix forte, une voix de gauche. C'est de ça dont nous avons besoin de faire entendre dans ce pays qui est un pays qui évolue de plus en plus vers un renforcement de la droite et de l'extrême droite, et bien de faire entendre une voix de gauche relativement forte, relativement audible, qui génère au sein de la population un espoir et rende crédible la prise du pouvoir par une majorité de gauche un jour, parce que nous voyons bien que si cette gauche n'est pas capable de représenter une alternative crédible, seule l'extrême droite représenterait cette alternative crédible, sauf que quand, comme moi, on a les valeurs humanistes de gauche chevillées au corps depuis sa tendre enfance, on sait que c'est le pire qui nous attend dans ce cas-là, et que nous avons la responsabilité historique d'offrir une autre alternative que celle-ci aux habitants de ce pays.
Merci Lionel Benarous. Je rappelle que vous êtes maire des Lillas. Bonsoir.
Bonne soirée.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.